Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de l'évêque Michel Ambourouet. Comme chaque lundi, nous sommes heureux de vous retrouver et de partager avec vous un enseignement à la fois pour recharger vos batteries, pour grandir, vous inspirer et avoir une vie pleinement épanouie. Êtes-vous prêt? Installez-vous confortablement et laissez-vous guider à la découverte de soi.
Spiritualité et prospérité. Il y a une liberté qui nous est octroyée par la mort de Jésus, bien entendu sa résurrection, mais le diable règne dans nos vies par l'ignorance. D'ailleurs, la Bible dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Ça veut dire que ce que tu ignores peut quand même te tuer. Ce n'est pas parce que tu n'es pas conscient de quelque chose que tu n'en seras pas victime. D'ailleurs, très souvent, tu es victime parce que tu ne connais pas. Notez bien que la bénédiction est une parole. La bénédiction n'est pas une voiture, la bénédiction n'est pas une maison, la bénédiction n'est pas un terrain, la bénédiction n'est pas de l'argent. La bénédiction, c'est une parole. Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez, dominez. Dieu parle au fils de Noé, à Noé, alors qu'il sort du déluge, la Bible dit, il va les bénir, et il va dire. Ici, dans ce texte, Dieu parle à un homme qui s'appelle Abraham. Voici ce que Dieu dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Il pousse en disant, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La bénédiction, c'est une parole. Maintenant, si à Abraham, Dieu s'adresse en disant, va-t'en de ton pays, Genèse 12, 1, de ta patrie, de la maison de ton père, pour un pays que je te montrerai. Le verset qui suit dit, je te bénirai. Pour bénir Abraham, Dieu a dû d'abord le délocaliser. Parce que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, ce grand Dieu qui dit, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied, a quand même dit qu'il a donné la terre au fils de l'homme. Ça veut dire que sur la terre, même si c'est écrit dans vos Bibles que Dieu fait tout ce qu'il veut, vous vous rendez bien compte en regardant à ce qui se passe sur la terre, qu'il y a beaucoup de choses qui se produisent sur la terre qui ne ressemblent pas à Dieu. Les viols, les meurtres, les fratricides, la famine, la pauvreté. Jésus nous enjoint lorsque nous prions, il dit, quand vous priez, dites notre Père, pas qui est sur la terre, notre Père qui est aux cieux. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme elle est faite. Ça veut dire que sur la terre, la volonté de Dieu n'est pas faite. Et pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, il faut qu'un homme prie. Ensuite, il faut qu'un homme donne son corps. C'est Jésus qui dit, tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, tu n'as voulu ni offrande, tu n'as pas voulu d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Voici, je viens pour faire ta volonté. Ça veut dire que le corps que Dieu te donne est un véhicule que Dieu veut emprunter pour faire sa volonté sur la terre. Pour faire sa volonté sur la terre, Dieu a besoin d'un corps. Et comme Dieu n'a pas de corps, du moins de corps terrestre, Dieu fait le choix de posséder un être humain qui est d'accord d'être possédé par lui. Maintenant, je veux pousser en vous disant que c'est illégal pour un esprit de fonctionner comme il veut sur la terre sans partenaire humain. Il faut, quel que soit l'esprit, que ce soit l'esprit de Dieu ou l'esprit du diable, que ce soit les démons ou les anges, ils ont besoin d'avoir un corps. lorsque Jésus chasse légion du corps de ce possédé, les démons supplient Jésus de ne pas les envoyer hors du territoire. My God. Et les démons disent, ne nous envoie pas hors du territoire, s'il te plaît, permets-nous de rentrer dans ces pourceaux. Les démons qui sont sortis de l'homme comprenaient bien que pour ne pas sortir du territoire, ils devaient rentrer dans un autre corps. Et ils étaient d'accord, n'ayant plus accès au corps de l'homme, d'avoir accès au corps des animaux. Ça veut dire que les démons peuvent posséder un animal. Que vous avez des cochons possédés, des chats possédés, des chiens possédés, des coqs et des poules possédés, des cafards possédés. Des mouches possédées. Mais ça commence en Genèse. C'est dans le serpent que Satan rentre. Donc nous ne sommes pas superstitieux, mais nous sommes spirituels. Et si nous ne croyons pas que tous les chats noirs sont des ancêtres ou des parents, les gens du village, nous considérons quand même que les démons peuvent rentrer dans des corps animaux. Est-ce que ça va pour tout le monde? Bref. Abraham ne peut pas être béni de Dieu, par Dieu, à Charan. Dieu refuse de le bénir là. Dieu lui dit, sors de Charan, qui est devenue la maison de ton père, pour un pays que je te montrerai. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Ça veut dire que la bénédiction a un lieu. La bénédiction a une zone géographique. Même si Dieu est Dieu partout, Dieu n'agit pas partout de la même façon. Regarde ton voisin et lui, Dieu n'agit pas partout en ce qui te concerne de la même façon. Je pousse. Dieu dit à Élie en pleine période de famine, va au torrent de Kérit. J'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir là. Je n'ai pas ordonné aux corbeaux de te rejoindre partout où tu seras. J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir au torrent de Kérit. Si tu n'es pas au torrent de Kérit, les corbeaux ne te nourriront pas. Il y a donc des choses que Dieu veut te donner qui n'ont pas reçu pour instruction de te suivre partout. Il y a des choses que Dieu veut te donner qui ont reçu pour instruction de te rencontrer quelque part. Et si tu n'es pas là où Dieu te veut, les choses sont là où Dieu te veut. Vous ne dites pas amen et c'est bizarre. Se peut-il que ta voiture soit là où tu n'es pas? Ta maison soit là où tu n'es pas? Ceux qui doivent investir dans tes affaires sont là où tu n'es pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, vous ne les rencontrerez jamais dans un taudis? Je vais pousser. Il y a une catégorie de personnes pour les rencontrer, vous devez aller au restaurant. Ils poussent et je pousse. Il y a des gens que vous ne verrez jamais quand vous prenez l'avion si vous n'êtes pas en première classe. Jamais. Il y a des gens que tu ne rencontreras jamais à la cafétéria. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Ça ne vous est pas arrivé de rencontrer des gens et de dire tu es au Gabon. Mais comment on ne se voit pas? Parce que vous ne fréquentez pas les mêmes lieux. Non, je pousse. Il y a des gens que tu n'aurais jamais rencontrés si tu n'étais pas venu là. Donc Dieu dit à Abraham, bouge. Ça veut dire que la prospérité ou la bénédiction, la prospérer est attachée à un lieu. Je vais pousser, c'est attaché à une terre. La première étape quand Dieu veut rendre quelqu'un prospère, la première chose que Dieu donne, après lui avoir donné sa parole, après avoir parlé à l'homme, la première chose que Dieu donne à l'homme, c'est une terre. Oh Dieu. Oh Dieu. Quand le diable veut t'appauvrir, quand le diable ne veut pas que tu prospères, le diable s'organise pour que tu sois vagabond. Que tu ailles de location en location. Que tu déménages tous les 3-4 mois. Heureux l'homme qui ne marche pas, qui ne s'assied pas, qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrête pas, qui ne s'assied pas. Il est comme un arbre. Come on, il est comme un arbre. Ça veut dire que si tu n'es pas planté, tu ne peux pas prospérer. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ce texte ne s'adresse pas à tout le monde. Ce texte s'adresse aux gens plantés. Donc c'est possible d'avoir une terre, mais de ne pas y être planté. Abraham, Abraham a 75 ans. Je pensais qu'Abraham pouvait être considéré comme quelqu'un qui a l'âge de la retraite. Mais j'ai découvert que pour nous, dans notre pays, la retraite, ce n'est pas 75 ans. C'est 66 ans. Le problème avec ça, que moi j'ai, c'est qu'il semble que notre espérance de vie, le taux d'espérance de vie au Gabon, soit en dessous des 66 ans. Ça veut dire que la plupart des Gabonais mourront avant d'avoir atteint l'âge de la retraite. Je vais dire ça différemment. Ça veut dire que tu peux travailler toute ta vie, mourir sans jouir du fruit de ton travail. Si toi, tu veux travailler comme un salarié qui va dépendre de la pension, okay? Tu peux travailler toute ta vie et quand maintenant le temps où tu dois rentrer en possession de ta pension arrive, tu meurs. Regarde ton voisin, dis-lui, je brise cette malédiction sur moi. Le problème, mes amis, vous ne réalisez pas que la plupart des gens ici dans notre pays vivent mal de la pension. Il y a des sit-ins, il y a des grèves, il y a des gens qui n'ont plus l'âge d'être sous le soleil, qui sont sous le soleil pour demander leur dû parce que malheureusement, ils n'ont pas été prévoyants. Je parle à quelqu'un ce matin en te disant que si Dieu, pour alimenter Éden, le jardin d'Éden, a dû envoyer 4 fleuves, notre Père nous a indiqué que pour qu'un homme soit prospère, il doit avoir 4 sources de revenus. Quand je dis homme, je dis homme avec grand H. Ça veut dire que tu ne seras jamais prospère sur la base d'un salaire. Menace ton voisin, dit le salariat te rendra pauvre. La mentalité de tu travailles 30 jours pour être payé un jour. 30 jours de ta vie valent un jour. Je dis, je brise cette malédiction sur ta vie. Les gens les plus riches ne sont pas payés au mois. Les gens les plus riches ne vivent pas comme tu vis. Si tu es sérieux au sujet de la richesse, il doit y avoir une révolte dans ton cœur. À 75 ans, Abraham décide de vivre autre chose que ce qu'il a vécu. Mais pour sortir Abraham des limitations de sa famille, il faut une rencontre avec un esprit. Mes amis, il faut qu'on vous dise la vérité. La prospérité est spirituelle. Tous les gens riches parlent avec des esprits. Tous les gens riches ont rencontré des esprits. Sur le chemin de leur destinée, ils ont été rencontrés par quelque chose d'invisible. Alors je vais dire ça dans l'autre sens. Tous les gens pauvres fréquentent des esprits. Si ce n'est pas toi, c'est tes parents. Si ce ne sont pas tes parents, ce sont tes ancêtres. Quelqu'un a vendu la richesse dans la famille. Abraham a 75 ans. Mais même 75 ans ne signifiait pas la fin de sa vie. Quel que soit l'âge que tu as, il n'est jamais trop tard pour prospérer. Ça va me fatiguer, je vais prêcher mon message au Congo ou en France. Je dis, quel que soit l'âge que tu as, il n'est jamais trop tard pour prospérer. Bouscule deux, trois personnes à côté de toi. Dis-lui, tu n'es pas encore vieux pour prospérer. Tu n'es pas trop vieux pour prospérer. Tu n'es pas trop vieux pour réussir. Tu n'es pas trop vieux. Tu n'es pas trop vieille. Tu n'es pas. Tu as 50 ans, c'est le bon âge. Il y a des hommes qui sont devenus riches à partir de 75 ans. Il y a des hommes qui sont devenus riches à partir de 80 ans. Il y a des hommes qui sont devenus riches à partir de 60 ans. Je ne sais pas quel âge tu as, mais je veux parler aux gens qui se considèrent trop vieux. Je dis, tu n'es pas trop vieux pour réussir. Laissez-moi parler aux jeunes. Je dis, si Mark Zuckerberg a pu commencer et a pu mettre en place un système qui aujourd'hui fait qu'il soit l'un des plus jeunes riches au monde, il y a des gens plus riches que lui qui sont plus jeunes que lui. Mais je veux dire à un Gabonais ce matin, je crois qu'il est possible d'être milliardaire en étant jeune au Gabon. Si tu as un jeune à côté de toi, dis-lui, ne te limite pas, 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 ne te limite pas. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Je dis que ce n'est pas parce que tes parents n'ont pas réussi que toi tu ne dois pas réussir. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de riche dans ta famille que toi tu ne peux pas être riche. Bouscule quelqu'un, dis-lui, ne te limite pas. Après le déluge, Noé va devenir agriculteur. Parce que quand tu sors d'une crise, tu dois te réinventer. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Tu as perdu ton emploi, réinvente-toi. Oh, je dis, tu as été licencié abusivement, réinvente-toi. Je dis, sors du salariat, rentre dans l'entrepreneuriat. Je veux parler à tous mes fidèles qui viennent, qui me disent, évêque, je veux un travail. Je dis, crée toi-même ton travail. Quand je demande, quand les gens viennent me voir pour me dire, ils attendent, ils ont déposé les dossiers, ça ne marche pas, ça ne prend pas. Je prends le dossier et je prie. Mais dans ma prière, je dis, Seigneur, qu'il ne soit pas limité par un travail. Je parle de la terre. Si Abraham n'a pas pu prospérer à Charan et que Dieu a dû le bouger, je comprends pourquoi certaines personnes veulent quitter le Gabon. Laissez-moi vous dire certaines vérités au sujet de notre pays. On parle de la terre. Le Gabon est considéré comme étant le pays le plus riche d'Afrique. Avec un PIB de 5,4 millions de francs CFA par habitant. Ça veut dire que si on divise la richesse de notre pays par le nombre d'habitants, chacun a droit à 5,4 millions par mois. Regarde ton voisin, tu touches combien par mois? Est-ce que tu te rapproches? Est-ce que tu te rapproches? Qu'est-ce qui fait qu'un pays autant riche soit composé d'habitants aussi pauvres? C'est parce que ce que vous devez savoir, Malik et Bradaha, c'est que si le PIB est élevé, la dette l'est aussi. La dette du Gabon est de 70% de son PIB. Ça ne vous choque pas? Ça doit vous choquer. Au-delà de la dette, l'une des choses qui fait que nous ne prospérions pas ou que nous ne soyons pas riches, c'est qu'il y a une très mauvaise gestion des finances. Il y a une confusion entre les fonds de l'entreprise et les fonds propres. Régulièrement, des gens qui, parce qu'ils ont un poste ou parce qu'ils sont à la tête d'un système, se permettent de mettre la main dans les caisses parce qu'ils considèrent que c'est leur caisse. Ils ne font pas de différence entre les fonds de l'entreprise et leurs fonds propres. Ce qui fait que des gens sont illicitement riches, riches de manière illégale. Ils volent ce qui appartient à l'État, qui finalement ne peut pas le redistribuer comme ça devrait l'être. Et donc il y a un fossé. Nous avons des gens très riches, mais en même temps une population très pauvre. Autre chose qui, de mon point de vue, provoque un problème dans L'accumulation des richesses, c'est que la plupart des entrepreneurs veulent travailler pour des gains rapides. Dès que quelqu'un veut, elle commence le commerce. Elle dit, ma révérende, elle vient de vendre les affaires qu'elle a achetées. Dès qu'elle a commencé à vendre, tout l'argent qui est rentré, c'est pour elle. Elle ne pense même pas à réinvestir. Elle ne se dit pas comment je vais faire, parce que normalement, pour vraiment être à un moment indépendant, autonome, pour que votre structure soit autonome et que vous puissiez vivre de votre structure, il vous faut au moins attendre 1 à 2 ans. Parfois sans vous payer. La plupart d'entre vous, vous êtes de mauvais princes. Vous voulez manger dès le matin. Vous voulez manger trop tôt. Tu viens de commencer ton commerce. Ah non, il me manque l'argent du taxi. Ah, aujourd'hui, je veux faire un peu les mèches. Je veux me faire belle. C'est pas ton argent. La plupart des entrepreneurs visent une glamourisation de l'entrepreneuriat. C'est un mot compliqué pour dire que la plupart d'entre vous, vous voulez les business qui sont populaires, qui sont sexy. Et vous devez savoir que ceux qui sont riches, mais les vrais riches, le sont parce qu'ils répondent à un besoin. Ils se rendent utiles à la communauté, à la société. Toi, tu veux être riche sans te dire qu'est-ce que j'apporte à la société. Comment je règle les problèmes de l'environnement dans lequel Dieu m'a mis. Moi, je me suis demandé 2-3 choses au sujet de la rencontre entre l'Éternel et Abraham. L'Éternel, c'est l'existant. L'Éternel, c'est Jéhovah. L'Éternel, c'est Yahweh. L'Éternel, c'est celui qui n'a ni commencement ni fin. L'Éternel, c'est celui qui est toujours conjugué au présent. Je suis. Quand il rencontre Abraham, son je suis affecte le j'étais. J'ai 75 ans, je ne sais pas parler, je suis trop vieux. Le je suis modifie la logique d'un vieillard, un esprit. Mais pourquoi est-ce que l'Éternel appelle Abraham et pas Nachor? Nachor, c'est le frère d'Abraham. Nachor va devenir le père de la... Oui, le père ou l'époux de Milka. Milka qui est la mère de Rebecca. Rebecca qui est la femme d'Isaac. Haran, le père de Lot, est mort. Térakh, le père d'Abraham, avait 3 enfants. Abraham, Haran, Nachor. Haran va mourir. Lot, son fils, va vivre. Térakh va prendre Abraham et Nachor, Abraham et sa femme, Saraï, et ils vont se déplacer avec Lot pour aller normalement à Canaan. Mais sur le chemin, Térakh va s'installer à Charan. Écoutez-moi bien. Ça veut dire que quand Dieu dit à Abraham, quitte là, le là en question, qui est devenu l'habitation familiale, ne devait être qu'un stop, pas une destination finale. Ça veut dire que Dieu va te demander de bouger des limitations de tes parents. Là où ton père ou ta mère se sont arrêtés, ce n'est pas là où tu dois t'arrêter. Bouscule quelqu'un, dis-lui, tes parents ne sont pas tes limites. Tes parents sont peut-être ton soubassement, mais ils ne doivent jamais devenir ton plafond. Je dis ça mieux. Je dis, tes diplômes ne sont pas tes limites. Ton éducation n'est pas ta limite. C'est ton soubassement. Mais tu dois continuer à apprendre. Tu dois continuer à te développer. Tu dois continuer à te faire former. Que quelqu'un me donne un amen qui ressemble à ce que...
Merci beaucoup d'avoir écouté cet enseignement de l'évêque Michel Ambourouet. N'hésitez pas à vous abonner gratuitement à ce podcast pour en écouter davantage. Restons connectés également sur les réseaux sociaux et le site internet michelambourouet.com. À lundi prochain, ici même, pour encore plus d'inspiration. Passez une excellente journée sous la bénédiction de Dieu. À très bientôt.